Romanov sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Léa Londo,
oui.
Christine Bérou, Michael Quiroga qui s'est bloqué le dos.
En mettant son pantalon.
En mettant son
à la tristesse de la vieillesse.
Ah mais vous êtes sympa, je vous dis un truc dans l'intimité. Et vous m'affichez devant
mais
toute la
France.
Mais
tu sais bien qu'il faut rien dire ici.
Ouais,
alors tu t'es bloqué le dos.
Oui, je me suis bloqué
Choupinet,
le dos.
Il a mal au dos.
Oh là là.
Tellement
il faut aller voir un ostéopathe.
Je ne savais même pas qu'il fallait aller voir ça. C'est pour vous dire.
Ou un kiné, mais quelque
part. Ben Nash, le week-end a été bon.
Le week-end a été très productif. Ce soir, je fais mon tout premier sketch de mon tout nouveau spectacle.
Où ça ?
À la Comédie Comartin.
Ah.
Et du coup, bah,
c'est sur quoi ?
Mais c'est quelque chose qui me ressemble. J'ai voulu arriver avec un spectacle qui est vraiment très proche de moi. Du coup, le premier extrait, ce sera le Cunilingus.
Non !
Et bon appétit à tous les gens qui nous écoutent.
Et est-ce que ton sketch dure aussi peu de temps que quand tu le fais ?
C'est mon doute.
Franchement, Léa, là, t'es mauvaise langue.
Personne n'a jamais fait de sketch là-dessus, en tout cas.
Je crois, justement, je crois.
Christine, le week-end ?
Le chien de ma mère est mort. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il s'appelait Ena. Et je lui ai dit, ah bah non, Macron, il a dit qu'il allait supprimer l'Ena. Bah pour une fois, qu'il dit ce qu'il fait. Et ça l'a pas fait rire du tout. Mais elle écoute cette émission, donc je sais qu'elle appréciera l'hommage.
Donc, excuse-toi.
Désolée, maman. Et maintenant, on va tous faire une minute de silence pour Ena.
Non, mais on pourrait faire comme Macron. On lui rachète un chien, on l'appelle ISF.
Bravo.
Europe 1, Anne Romanov.
C'est le moment de notre jeu, le principe est simple. Deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué l'actualité du week-end. Cette semaine, grâce à Europe 1, vous allez être contents les auditeurs. C'est le cadeau qui vous met en transe. Tentez de gagner le nouveau Juice Expert 5 de Magimix, le plus polyvalent des extracteurs.
Ah là là.
Multifonction 5 en 1 pour une alimentation plus diversifiée et ludique avec le Juice Expert 5 Magimix. Allié santé et plaisir, on réalise. Mais vous avez l'esprit mal tourné. Je vous parle d'un extracteur de jus, vous imaginez un sextoy.
Qui peut faire des powerballs.
Allié santé et plaisir en réalisant des jus, laits, smoothies onctueux, mais aussi des salades, carpaccio, powerballs, spaghettis, fusilli ou tagliatelle de fruits et légumes. Avec ses différentes technologies exclusives brevetées, le Juice Expert 5 Magimix extra froid le meilleur des fruits et légumes crus ou cuits, jusqu'à 96% de jus, 85% de vitamines, 95% d'antioxydants. Plus d'infos sur le livre de recettes inclus et sur magimix.fr.
Léa et Anne, il y a longtemps que vous n'avez pas extrait 85% de jus de quoi que ce soit.
Non, mais c'est horrible.
C'est horrible ce qu'il dit.
Mais oui.
Bah, c'est un beau cadeau en tout cas.
Non, c'est la douleur qui me fait
bon,
parler.
Les femmes vont se l'arracher en tout cas, c'est sûr.
Ah, c'est sûr. On joue d'abord avec Karine. Bonjour Karine.
Bonjour Anne, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Bonjour Karine, vous avez 45 ans, assistante de direction à Garennes-sur-Eure, dans l'Eure.
Oui.
Vous avez 4 enfants, 17 ans, 13 ans, 8 ans, 4 ans.
Waouh.
Ah ouais.
Ouais, vous n'avez pas chômé.
Et elle travaille à Paris tous les jours, elle fait 1h30 de trajet. Aller-retour ou aller...
Aller seulement.
3 heures
non,
de transport
courage,
par jour.
Pour travailler combien, 1 heure ou 2 ou un peu plus quand même?
Un petit peu plus quand même.
Non mais quand même, le courage qu'il faut avoir. En transport en commun ou en véhicule?
Oui, transport en commun quand il n'y a pas grève.
Et en plus, Karine est mariée depuis 19 ans.
Bah oui, il ne la voit pas beaucoup du coup. Parce que...
Et ça réduit les disputes.
Et c'est pour ça que ça dure depuis 19 ans.
Bah ouais.
Votre chroniqueuse préférée, c'est qui Karine?
Christine
Bérou. Oh,
moi aussi.
Ça me touche, Karine.
Là, mais je vous aime toutes.
Ah, vous nous aimez tous. Bah,
elle va lâcher une petite larme, Christine.
Oui, mais c'est rare qu'on dise qu'on te préfère.
D'accord, merci de souligner.
Qu'est-ce que vous aimez chez Christine, Karine?
Son humour, sa gentillesse et ses chats.
Ah oui, parce que je me suis dit, si elle dit sa voix, là, franchement, elle se fout de la gueule du monde.
Est-ce que vous suivez Becky et Ferdinand sur Instagram? C'est mes chats.
Oui,
mes chats sont des stars de l'Internet.
Ah bon, ils étaient en position de jumeaux ce week-end pour dormir. Oui, j'ai tout vu.
Ah, bah dis donc.
Ah oui, vous êtes une vraie fan, Karine, c'est bien.
Voilà.
Ça me touche beaucoup.
Et assistante de direction, une société de quoi?
De service, une grande administration.
C'est quoi comme administration?
La chambre de commerce et l'industrie.
Oh oui.
Bah cachez votre joie quand vous dites ça. Michael, vous n'êtes pas sur Instagram?
Non.
Non.
Non, je ne suis pas sur Instagram.
Non mais Michael est nulle part, de toute façon il n'existe même pas le gars. On ne sait pas son nom, on ne sait pas son âge.
Moi je suis en cavale, cherchez pas.
Ah, c'est ça.
Alors, Christine,
oui.
On est au taquet?
Oui.
Pour faire gagner l'extracteur de jus?
Oui.
Karine, on est au taquet?
Prête.
Attention, top pronom.
Elle présente l'amour et dans le pré, elle a le même prénom que vous.
Karine Le Marchand.
Oui, c'est le fils de Lady Di et le frère de William. Il va bientôt être papa.
Harry.
C'est la femme de BHL. Elle chante un peu comme ça. Elle a fait danser avec les stars. Oui. C'est le James Bond. Il est blond. C'est le dernier James Bond.
Bon, ouais,
non, c'est une actrice américaine, Desperate Housewife. Elle est un peu latina. Elle est amie avec Nikos Aliagas. C'est le. Il est vert. Il a fait une polémique parce qu'il a dit des trucs dans les années 70. Il aurait pas dû. Et il soutient Macron. Et du coup, ça a fait des histoires, ok. Il est au numérique. On l'a reçu il y a pas très longtemps. Il voulait mettre des drones.
Quatre bonnes réponses.
C'est pas mal, mais enfin, il y avait Mbappé, Christine, dans la liste. Quatre bonnes réponses. Samuel Hutel, c'est pas du foot, c'est question pour un champion. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
Eva Longoria, ce qui était mariée à Tony Parker, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu dire. Et Daniel Craig, l'acteur de James Bond. Mais enfin, il y a quatre bonnes réponses.
C'est finir les femmes par rapport à qui elles ont été mariées. Elles sont plus que ça.
Oui, ouais, c'est vrai.
Écoute, commence pas, c'est le matin.
J'ai bien aimé quand vous avez imité Ariel Dombal.
Ouais,
vous
tu peux le refaire.
Elle
a trouvé imiter quelqu'un qui a une voix plus aiguë qu'elle, quand même.
Et en plus, le seul truc qu'elle trouve à dire pour l'imiter, c'est là, 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 je suis folle.
Elle a trouvé.
Un bel hommage.
Bon, Karine, quatre bonnes réponses. On va voir comment se débrouille Eric. Eric.
Oui, bonjour.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous êtes conducteur de bus, vous avez 55 ans, vous habitez à Ambarès et La Grave dans le 33.
Oui, c'est à côté de Bordeaux, dans la banlieue bordelaise.
Et vous êtes marié depuis 33 ans ?
Oh là.
Oui, c'est ça. Ouais. On fait partie des anciens, des records. Hein, c'est les records.
Ah bah oui, c'est sûr. Ça. C'est quoi le secret d'un couple qui dure comme ça ?
Bah, le Bordeaux.
Oui, aussi, oui, ça y fait. Oui.
C'est quoi le secret alors ?
Il faut être conciliant, c'est tout.
Conciliant.
Conciliant. Bah, ça,
il faut faire des concessions.
Non plus, non.
Comment ?
Ouais. Un seul mot, ouais.
Comment elle s'appelle, madame ?
Anna Paula.
Elle est espagnole.
Anna. Non, portugaise.
Portugaise.
Donc, elle cuisine bien, voilà.
Eric, vous nous écoutez comment alors ? Dans le bus ?
Régulièrement, mais là, non, je travaille l'après-midi, comme cette semaine, donc je peux vous écouter le matin, et autrement, quand j'arrive au terminus, comme ça, je vous écoute. Voilà, vous.
C'est gentil. Et c'est qui votre chroniqueur préféré ?
Oh, et c'est tout le monde, vous formez une très belle équipe. Donc.
Oh, mais c'est gentil.
Mais là, je vais jouer avec Ben H, il est là, il est en forme.
Ouais, bien sûr, il est toujours en forme.
Comme un lundi, hein.
Allez, on y va. Top chrono.
Allez, c'est le président du Modem.
Du Modem, ça démarre bien.
Il s'est présenté à l'élection présidentielle. C'est ça, c'est le Brésilien du Paris Saint-Germain, l'attaquant.
Neymar.
Ouais, c'est ça. C'est celui qui chantait « Le monde entier est un cactus ».
Dutron.
Ouais, c'est l'écolo, il était ministre, il a démissionné du gouvernement et présenté Ushuaïa il y a une vingtaine d'années. C'est le même prénom que Sarkozy. C'est un animateur télé, il présentait La Méthode sur TF1 il y a 10 ans. Celui qui présente Enquête exclusive sur M6.
Ouais,
sur le gong. Bravo.
Bravo.
Eric, vous avez gagné le nouveau Juice.
Christine est dans tous ses états.
Ah, je déteste ça. Oui, je déteste
génial,
perdre.
J'en faisais une affaire personnelle.
Vous avez gagné le nouveau Juice Expert 5 de Magimix, le plus polyvalent des extracteurs, multifonction 5 en 1 pour une alimentation plus diversifiée et ludique. Avec le Juice Expert 5, allié santé et plaisir en réalisant des jus, lait, smoothies onctueux, mais aussi des salades, carpaccio. Powerballs, spaghetti, fusilli, tagliatelle de fruits et légumes. Plus d'infos sur le guide de recettes inclus.
Ça donne faim.
Et sur magimix.fr. Est-ce qu'on peut avoir un cri de joie, Eric ?
Ouais !
Pas mal !
Je remercie Benache.
Mais merci à vous, c'est une belle victoire collective.
Et Anna Paula, elle est là ?
Non, elle est pas là, elle travaille.
Elle fait quoi ?
Il y en a une des deux qui travaille.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Karine, pas trop déçue ?
Si, quand même.
J'ai un message en miettes. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que vous voulez une photo personnalisée de mes chats ? Avec un message. Non, mais je cherche.
L'autre consolation de rêve.
Vous pouvez lui envoyer votre livre ?
Voilà.
Oui, je peux vous. Est-ce que vous voulez mon livre, Karine ?
Oui, ce serait
bien. Ah, bon, je vais vous le faire.
Sinon, tu peux aussi lui acheter le nouveau Juice Expert 5 de Magimix, le plus polyvalent de tous les extracteurs.
Non, je vais vous envoyer mon livre et puis Becky et Ferdinand vont vous envoyer un petit mot sur Instagram.
D'accord.
T'as de la chance qu'elle est gentille, sans réalité, moi je t'aurais dit, tu sais où tu peux te les mettre, tes photos de chat.
Karine, vous rejouez avec nous d'ici un mois ?
Pas de problème.
Oh là là, mais là, elle est en deuil du juice extracteur de Magimix.
Vous avez d'autres raisons de vivre à côté?
Je vais chercher.
Je vais chercher, la pauvre.
Bon, vous embrasse, Karine. Passez une bonne journée. Et embrassez tous vos enfants, parce que c'est vrai qu'il y a 4 enfants. Ça aurait été bien un juice extracteur de Magimix.
Franchement, tu te rends compte, Christine.
Le mal quand t'as 4 enfants, tu l'as déjà, l'extracteur.
Et en plus, ces enfants qui vont la regarder, maman, il est où l'extracteur de juice? Comme ça, avec la faim dans les yeux, et elle dira, mais c'est Christine Berrou avec ses chats pourris qui m'a fait perdre. Voilà ce qu'elle va dire.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, oui. Ben H, Mickaël Quiroga et Christine Berrou, qui après ses chats nous parlera de sa fille d'un an. Sa vie est passionnante.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H, Léa Landau, ouais. Christine Berrou, Mickaël Quiroga. Christine, vous êtes remise de votre défaite ou je vous sens mortifiée?
Ah oui, non, mais je me sens très mal. Mais arrêtez de me choisir à ce jeu, c'est trop de stress. Après, j'en fais des cauchemars la nuit. La dernière fois, j'avais fait perdre une femme qui avait des enfants. J'ai dû envoyer des bateaux Playmobil.
C'est vrai, en plus.
Non, mais, j'ai
vous êtes trop sensible. Il faut...
Je pense à la personne qui va repenser toute la journée, qui avait...
Mais tu sais qu'on parle d'un extracteur de jus, quoi.
Non, mais cette pauvre Karine qui faisait 3 heures de transport en commun tous les jours et... Qu'à 4 enfants, tout ça, je me dis, ça aurait apporté un petit peu de pimpant.
Elle va vraiment pleurer, j'ai l'impression.
Et j'ai échoué, je suis bonne à rien, mon père avait raison. Oh on peut continuer cette émission.
Où est-ce qu'elle est partie?
Allonge-toi, Christine, on va régler ça.
Entre son père et sa mère, dis donc. Ouais. Hein
non, mais t'imagines, là, c'est juste pour un extracteur. Si elle avait raté la livraison d'un nouveau poumon, elle serait dans un état.
Alors, le Premier ministre Édouard Philippe réunit aujourd'hui les membres du gouvernement pour un séminaire à Paris. Est-ce que vous trouvez ça utile? Vous avez déjà participé un séminaire de travail, vous aimeriez qu'on en fasse un pour l'émission?
Bah nous on est déjà partis en séminaire avec toute l'équipe d'Europe 1.
Pardon? Ah bah non, je vous assure que non.
Mais si, non. Si, parce que la première semaine de février, parce que dites oui mon copain écoute, et j'étais triste de laisser mon bébé à son père et de pouvoir dormir tout ce que je voulais, je ne suis pas partie chez une copine en cachette, non, j'étais en séminaire avec vous.
Ah, bien sûr. Effectivement.
Voilà. Ah bah je m'en souviens maintenant.
Ouais, merci, bah voilà, c'était super. Qu'est-ce qu'on est sympa.
Ben H, un séminaire?
Ah bah
un
séminaire tous ensemble, bah écoutez, je sais pas ce qui m'ennuierait le plus, que Christine me parle de bébé toute la journée ou que Léa refuse d'en faire toute la nuit. Je sais pas. Je sais pas.
Bah, il n'est jamais trop tard pour un séminaire, Ben H.
Donc non, parce que non, tu serais d'accord pour faire des bébés.
Bah, non, mais Christine serait ravie de t'en parler toute la journée, je pense.
Christine,
oui,
grande nouvelle, votre fille a eu un an.
Bah,
wow.
Bon anniversaire.
On va souhaiter à les chantons.
Joyeux anniversaire. Alors non, parce que moi je pensais que c'était juste une date et puis en fait je vois bien que les choses sont en train de changer. Elle était si douce et si gentille et là depuis une semaine elle est insupportable. Je crois qu'elle est en pleine crise de la unaine. Après, je dis pas que ma fille est devenue invivable, je dis juste que son prénom c'est Jen mais qu'avec son père maintenant on la surnomme Kim Jen-Hoon parce qu'il y va bien. Mais bon voilà, les habitudes changent. Par exemple, je l'emmène au parc, j'adore. Je regarde les autres enfants et je fais des pronostics sur lesquels vont rater leur vie. Ma fille a plusieurs copines. Elle a plusieurs copines, dont la petite Eugénie qui a un mois de moins qu'elle et qui pourtant s'est déjà marchée, comptait jusqu'à 3 et s'est servir d'une petite cuillère. Alors je vois bien que ma fille se sent pas bien alors que j'ai expliqué. Tu sais, ça en fait, c'est à Léa Landau. Mais tu l'auras un jour, tu l'auras. Hein, tu as toute la vie pour lui montrer à cette petite... Bien. Voilà, un an, c'est l'heure du bilan. Bien sûr, c'est dur de ne pas dormir. Hein, les premiers mois sur l'échelle de la joie de vivre, je me situe en tarlet de chabot et un caillou. Mais en fait, le plus dur, ça a été de subir ma belle-mère qui sous-entendait toujours que j'allais tuer mon enfant. J'ai fini par inventer des trucs pour la pousser à bout. Ce week-end, on peut pas, on a lancé de couteau. C'est comme les bébés nageurs, mais on lançait de couteau. Voilà. Bonne soirée, Monique. Pourquoi vous pleurez?
Un an, tu fais pas ça à ta belle-mère?
Bien sûr que si. C'est pas ce qu'elle me fait à moi. Voilà, un an.
Elle écoute aussi l'émission?
Non.
Ah, cool. Oh, la famille de l'horreur.
Un an, c'est plus un bébé, c'est un enfant. Alors je me pose la question, quel enfant je vais lui donner? Moi, j'ai été très heureuse. On avait une piscine. Oui, parce que mon père était chercheur. Et donc, on avait une piscine gonflable, hein, puisqu'il n'a jamais rien trouvé. Et je me rappelle, On l'embrasse.
Et il écoute l'émission.
Peut-être. Je regardais le Club Dorothée, je regardais tout. Princesse Sarah, qui était orpheline. Rémi sans famille, qui était orphelin. Candy, qui était orpheline. À un moment donné, on ne savait plus si Dorothée travaillait à la télé ou à la DAS. Mais moi, je ne comprenais pas ça. J'étais insouciante. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec mon regard d'adulte, je vais réussir à vendre à ma fille cette insouciance? Comment, par exemple, lui expliquer Bambi? Bambi, sa mère s'est fait tuer par un chasseur et son ami s'appelle Pampan. C'est comme si ta mère se faisait renverser par une voiture et que ton meilleur ami s'appelait Vroom Vroom. Un an. Ma vie a changé. Elle est incroyablement remplie. Je me demande, mais qu'est-ce que je faisais de mes journées avant? Et quand un collègue me dit, j'ai pas eu le temps de finir ma chronique, j'ai dormi 3 heures, le temps ça passe trop vite, je ne peux pas m'empêcher de lui répondre, ta gueule Ben H. Un an, elle a pas toutes ses dents, mais moi grâce à elle, j'ai le sourire.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Mérou, Mickaël Kirogal, Alando Benach et notre invitée, attention, la championne de boxe Sarah Ouramoun, va pas falloir la chercher.
Je suis chaud.
Pour son livre Mes combats de femmes qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Mickaël Kirogal, Léa Lando, Christine Mérou, Ben H.
Ouais.
Et notre première invitée qui a été 10 fois championne de France de boxe, championne du monde, vice-championne olympique de boxe anglaise, autrement dit macho et relou s'abstenir.
Ouais.
Dans son livre Combat de femmes, elle raconte ses combats et surtout ses victoires contre le sort. Première femme en France à être licenciée dans un club de boxe, cette jeune maman intègre ensuite Sciences Po et devient chef d'entreprise, une battante aussi engagée contre les violences faites aux femmes. Elle lande sur le ring, une ovation pour Sarah Ouramoun. Bonjour, Sarah Ouramoun. Alors ce livre, Mes combats de femmes, chez Robert Laffont, vous parlez de vous, de votre histoire dans ce livre?
Exactement, je raconte un peu tout mon parcours de l'enfance jusqu'au Jeux de Rio en 2016. Avec du rêve, mais aussi pas mal de combats sur le ring et hors du ring.
Dans la vie aussi, vous êtes battue? Vous avez la sensation que tout ce que vous avez eu, vous l'avez gagné à la force du poignet?
Oui. Après, j'ai toujours été très douce en dehors du ring, mais très engagée.
Parce que quand on vous voit comme ça, on a du mal à penser que vous êtes championne de boxe quand même.
Ça arrive, c'est
enfin,
vrai
j'ai
que...
J'ai pas envie de tester quand même. Hein.
Vaut mieux pas.
Parce qu'en plus, vos titres sont quand même assez impressionnants. Hein. Vous avez gagné... Rappelez-nous vos titres.
Alors, j'ai été 10 fois championne de France, 3 fois championne de l'Union européenne, championne du monde et vice-championne olympique.
Et qu'est-ce qui donne envie de faire de la boxe quand on est jeune fille?
Je ne m'imaginais pas du tout boxeuse ni championne. Ça a été vraiment par hasard. Je suis passée devant une salle de boxe et j'y suis entrée par curiosité. J'ai adoré l'ambiance.
Parce qu'il y avait un beau mec dedans ou juste...
Même pas, elle était vide.
C'est vrai.
Non, c'est vraiment l'envie de frapper sur un sac.
Vous avez de l'agressivité en vous alors quand même?
Même pas, parce que j'ai dû apprendre à être agressive. J'ai pris un préparateur mental pour développer mon agressivité, parce que justement, je montais sur le ring avec le sourire, enfin vraiment contente d'être
trop
là.
Trop sympathique.
Trop sympa. Par contre, j'aime la belle boxe, le beau geste, et ce que j'aimais, c'était vraiment mettre en place des stratégies de jeu, de combat, trouver la faille, feinter, jouer un peu avec l'adversaire, un peu comme on peut faire dans un jeu d'échecs.
Vous connaissez tous les Rocky par cœur?
Même pas. J'ai regardé au début. Alors, ma mère m'a forcé à regarder les Rocky pour convaincre d'arrêter la boxe en me disant « Regarde, tu vas avoir le nez cassé.
Ouais. »
C'était
la hantise de votre mère que vous ayez le nez cassé?
Ma mère avait peur de ça. Ouais. Elle était persuadée qu'on allait me défigurer, que j'allais jamais me marier. Enfin, la totale.
Vous étiez une famille avec beaucoup d'enfants, Sarah?
On est 6 enfants, 3 filles, 3 garçons.
Et dans 20 mètres carrés, c'est ça?
Ouais.
Et vous étiez la plus respectée de tous, j'imagine, non?
Ah, il y avait un peu de concurrence avec mon grand frère, ouais. Il ne se laissait pas faire.
Et là, vous tiriez au sort pour savoir qui dormait dans quel lit, en fait, c'est ça?
C'est ça. En fait, il y avait un lit plutôt sympa. Et puis, la pire des positions, c'était à l'entrée, où quand mon père remontait après sa journée de travail, il s'est arrivé qu'il nous marche dessus ou qu'il tombe sur nous. Donc voilà, c'était le perdant qui gagnait cette
place. Ça vient de là, l'agressivité, non?
Même pas. Non, malheureusement, c'est ma petite sœur qui s'est retrouvée souvent à cette position parce qu'on trichait quand on jouait. Et voilà. C'était la moins maligne.
Oh non, la pauvre.
Et après, combien de temps vous avez vécu dans ce studio à 6?
Alors, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, je suis partie à Aubervilliers. Et c'est là que j'ai découvert le taekwondo, puis après la boxe.
Et alors là, vous essayez d'être le moins possible chez vous quand même, et vous faites vos devoirs dans la salle de boxe.
Oui, c'est vrai que cette salle, ça a été presque ma deuxième maison. J'ai découvert une vraie passion pour la boxe, je suis tombée amoureuse de ce qu'on appelle le noble art. Et quand j'étais là-bas, je faisais mes devoirs, j'enchaînais avec les entraînements.
Mais tenir un stylo avec le gant, ça va, enfin, c'est...
On s'habitue, on ouais. C'est comme le protège-dents, au début on bafouille, c'est on compliqué. Bave, et puis après on maîtrise.
Ah bah fais faire papille là. Fais.
Et alors après, donc vous avez créé votre entreprise et vous avez intégré une filière à Sciences Po pour devenir entrepreneur. Comment ça s'est passé ?
Alors, j'ai intégré d'abord l'école de communication. J'avais envie de travailler en agence, enfin, peut-être de publicité. Et puis finalement, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais parallèles avec la compétition, ouais. La boxe, dans la recherche de l'excellence, dans l'affrontement, dans le faire face à la concurrence, etc. Et du coup, j'ai eu envie de lier ma passion pour la boxe avec cette nouvelle passion pour l'entrepreneuriat.
Vous avez fait votre entretien par Skype tellement vous étiez épuisée après votre accouchement, c'est ça ?
Pour rentrer à Sciences Po Entrepreneur, il y avait un oral. Et donc, j'avais fait toute une année où il y a tout un parcours où il faut présenter à chaque fois une partie de son projet. Et l'oral final de sélection était prévu le jour de mon accouchement. Et moi, j'étais persuadée que j'allais pouvoir y arriver. Donc, j'ai accouché 3 jours plus tôt. Et la veille de l'oral, j'étais complètement épuisée. Mon projet de départ, c'était d'aller à Sciences Po. Il y avait 20 minutes de métro. Je me suis dit, j'y vais vite fait, je fais mon oral, je reviens, ni vu ni connu. Et en fait, j'étais crevée. Donc, je les ai sollicités en disant, mais on peut faire ça par Skype. Et ils m'ont pris pour une folle. Ah ouais. Ils ont fini par venir à la maternité en me disant, OK, on se calme.
C'est vrai.
Et on reporte l'oral dans 2 mois. Et donc, tout le monde a repassé l'oral dans 2 mois à cause de moi.
C'est vrai.
Mais voilà, tout s'est bien passé.
Et donc, le mental de boxeuse joue quand on passe des oraux comme ça, si important ou...
Je pense que ça aide dans la gestion du stress.
Qu'est-ce que ça fait ? Vous êtes dans un milieu quand même très pauvre, Sarah ou Ramoun, parce que vous étiez à 6 dans 20 mètres carrés. Et après, vous dites que vous avez essayé très vite de gagner de l'argent, de l'aide scolaire, vous travaillez sur les marchés. Le samedi matin, vous vendez des légumes. L'après-midi, vous faites le tour des épiceries pour liquider ce qui reste de légumes.
Il n'y a pas le choix. Hein. Et puis, c'est vrai que j'avais une mère qui avait un discours assez fort où elle me disait, voilà, il faut se lever le matin et travailler. Et puis, il n'y a que aussi par l'école que tu pourras t'en sortir. Et j'ai tout de suite eu envie de...
Votre maman était aide-soignante.
Ma mère était aide-soignante. Elle travaillait beaucoup. Et c'est vrai qu'elle m'a tout de suite...
Mis au travail.
On n'a que ce qu'on gagne. Donc, tu ne peux pas rester assise devant la télé et attendre que le plat vienne sur la table.
Maintenant, vous avez une vie plus confortable. Comment vos parents vivent votre réussite, Sarah ou Ramoun ?
Ils sont très fiers, très très fiers. Alors, ma mère me dit souvent qu'elle ne comprend pas ce que je fais. Elle me dit « je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, je suis fière
ouais. ». On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Sarah Ouramoun, la boxeuse championne de boxe, venue nous parler de son livre « Mes combats de femmes » qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Léa Lando, Christine Mérou, Ben H et notre invitée Sarah Ouramoun, championne de boxe, venue parler de son livre Mes combats de femmes aux éditions Robert Laffont. Alors vous dites aussi que ça a été un peu tendu avec votre mère quand même à un moment et vous avez fait du taekwondo ensemble et ça a dissipé les tensions.
Ouais, je l'ai mise au taekwondo. Alors, faut savoir que ma mère aujourd'hui a 65 ans et qu'elle s'est mise à la boxe thaï. Donc, c'était pas complètement déconnant de la mettre au taekwondo. Oui,
drôle.
Elle est hyper active. Enfin voilà, elle court un peu partout. Le plus fort, c'est que quand elle était avec d'autres personnes, elle y allait tout doucement. Puis quand elle était avec moi, pour me balancer des coups bien forts. Mais oui, ça nous a fait du bien de se retrouver ensemble, même si c'était du combat. C'était un beau moment.
Parce que vous êtes deux femmes fortes, en fait.
On est deux femmes fortes, deux femmes entêtées aussi, donc la communication n'est pas toujours facile. Quand j'étais ado, j'étais persuadée de tout savoir mieux qu'elle. Et donc, voilà, les
discussions étaient... Vous étiez arrogante un petit peu.
Oui, j'étais un peu arrogante.
Arrogante, insolente.
J'espère que votre fille écoute, Anne.
Et comment les boxeurs voient les boxeuses féminines ?
Quand j'ai commencé en 96, on n'avait pas le droit de boxer. Donc, les gens n'étaient pas habitués à voir des femmes sur un ring. Il a fallu attendre longtemps... Pour pouvoir se faire respecter et accepter dans une salle et puis après sur un ring de compétition.
Et pas de regrets parce que vous aviez fait de la peinture quand vous étiez jeune et a priori c'était soit la boxe soit la peinture.
J'ai vécu des choses extraordinaires grâce à la boxe. Alors, il y a eu des moments compliqués, mais ça m'a forgé et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mais non, pas de regrets.
Vous faites toujours de la peinture. Hein. Parce qu'avec la droite, vous mettez du bleu, avec la gauche, vous mettez du rouge.
Sarah Ohramoun, vous êtes aussi occupée d'handicapés mentaux pendant votre formation d'éducatrice spécialisée. Et vous dites qu'au début, vous aviez beaucoup de mal, ça vous affectait, vous aviez mal à la tête en rentrant chez vous, vous étiez épuisée. Puis après, vous avez réussi.
Les premières semaines, je faisais beaucoup de cauchemars, surtout à la lecture des dossiers où je me rendais compte que c'était souvent des accidents de la vie ou des problèmes pendant l'accouchement qui avaient donné lieu à certains handicaps. Et ouais, j'avais vraiment de mal. Je sortais de là-bas, je dormais tout de suite, quoi, jusqu'au lendemain matin. Et puis, avec le temps, j'ai fini malheureusement par m'habituer. Et heureusement aussi parce que je les voyais comme des enfants normaux, quoi. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus lucide, de construire des projets éducatifs solide et surtout de leur donner confiance parce que je ne les regardais pas comme...
Il y a en vous une dimension humanitaire, Sarah Ohramoun, parce que vous êtes aussi très investie dans le combat contre la violence faite aux femmes parce que vous avez perdu une amie qui a été tuée par son mari.
C'est pas une amie, c'est une fille que j'ai eue sur un team building box dans une entreprise. C'est la box qui m'a fait prendre conscience de la place des femmes dans la société. Peut-être malgré moi, c'est-à-dire que je ne suis pas montée sur un ring en me disant je fais ça pour les femmes, je vivais juste ma passion, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des vraies inégalités et qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec une médaille olympique, on a une voix qui porte beaucoup plus et que je fais peut-être office de rôle modèle, donc il faut pouvoir utiliser cette médaille à bon escient.
Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Sarah Ohramoun.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors je suis ravi de vous rencontrer, je crois que vous êtes la première championne que je rencontre dans l'émission. Alors bien sûr, des champions on en a à cette table, hein, mais rien de comparable avec vous. Vous êtes médaillée dans la plus prestigieuse des compétitions, les Jeux Olympiques. Mmh. Vous êtes vice-championne olympique, je veux dire, alors que nous bon, on a Benache, qui est plutôt champion olympique du vice. On peut dire que la boxe est à la mode, tout le monde s'y met. Même Benache ici présent, il s'est mis à la boxe, il est venu au club. Ouais. Si, c'était un mercredi. Hein. Bon, normal, vu le gabarit, on s'est dit que c'est mieux de le faire venir le jour des enfants. Il faut savoir qu'en boxe, toute la différence entre les championnes et les autres se fait à l'entraînement et au niveau de l'hygiène de vie. Et celle de Sarah Ohramoun est irréprochable. Moi, j'ai vu son emploi du temps. 5h du matin, Sarah Ohramoun se réveille. 5h01, elle se tourne vers son homme allongé près d'elle, elle lui sourit et lui demande comment il va. 5h03, elle s'hydrate avec un demi-litre d'eau tout en relisant les épreuves de son livre Mes combats de femmes. 5h10, elle boucle un jogging de 10 km. 5h17, Sarah est de retour à la maison, elle a battu son record. 5h20, elle se douche. 6h du matin, direction la salle de boxe et entraînement jusqu'à midi. Vous voyez, ça c'est Sarah. C'est sûr que si on compare avec l'entraînement de Benache... 5h du matin, Benache se réveille. 5h01, Benache se recouche. Ouais. 8h04, Benache se réveille. Il se tourne vers la femme allongée près de lui et lui demande « Qui es-tu ?» 9h05, il se décide enfin à aller faire son jogging de 1 km. 15h08, Benache est de retour, c'est le SAMU qui l'a ramené. Ça n'a aucun rapport. La différence, c'est que lorsque Sarah frappe dans le sac, ensuite, il faut recoudre le sac. Alors que quand Benache frappe dans le sac, ensuite, il faut recoudre Benache. Et c'est cette différence qui fait que Sarah Ohramoun est aussi 10 fois championne de France et championne du monde. Il faut savoir que beaucoup de monde ont du mal à seulement comprendre le principe même de la boxe. Hein. C'est vrai que certains peuvent se demander ce qui peut pousser deux personnes à se taper dessus sans raison alors qu'elles n'ont rien à se reprocher l'une à l'autre. Bon, bah Sarah, vous n'êtes pas méchante. Hein.
Pas du tout.
Bah voilà, c'est la faute des entraîneurs en fait. Ils leur interdisent les sorties, l'alcool, le gras, le sucre, les bons gueuletons, le sexe. Faut quand même avouer qu'ils font tout pour vous énerver. Sarah Ohramoun, aujourd'hui vous ne boxez plus, vous êtes orientée vers le coaching, le bien-être, le sport et la santé par le truchement de la boxe entre autres. Hein. C'est vrai que sur un ring on apprend le contrôle de soi. Ça c'est un truc qui peut intéresser la patronne. Parce que je sais pas si vous
êtes au courant. Je suis très maître de mes nerfs.
Bien sûr, bien sûr. Sauf devant une boutique Léonidas. Parce que je sais pas si vous êtes au courant. Mais elle a un petit problème de chocolat, la patronne. Vous voyez, alors, l'avantage avec la boxe, c'est que, bon, soit elle est bonne et elle y laissera ses kilos superflus, soit elle est mauvaise et elle y laissera sa mâchoire. Dans les deux cas, plus de problème de chocolat. Alors, vous êtes aussi engagé pour les JO de 2024. Ils ont débloqué même, je crois, 20 millions d'euros pour la recherche afin d'améliorer les performances de nos champions. C'est ça, hein.
C'est ça.
À mon avis, si vous voulez les faire courir plus vite, faut pas mettre les 20 millions sur la recherche. Il faut les mettre sur la ligne d'arrivée. Voilà, Sarah Ohramoun, si vous en avez fini avec les combats de boxe, vous continuez de combattre dans d'autres domaines. Et votre livre Mes combats de femmes en est l'illustration. Un proverbe arabe dit ne jugez pas le grain de poivre à sa petite taille, parce que vous faites 1m58 seulement. Voilà, il dit goûtez-le et vous sentirez comme il pique. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez piqué tous vos adversaires. jusqu'à vous hisser au sommet de votre art. Vous avez valeur d'exemple. Alors en guise de conclusion, bah, je vais tout simplement applaudir la performance.
Merci.
Europe 1. Merci Sarah Ouramoun d'être passée nous voir. On rappelle votre livre Mes combats de femmes, une autobiographie qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Et puis vous êtes évidemment aussi dans le comité national olympique et sportif français et vous préparez les prochains JO qui vont avoir lieu en France.
Exactement, merci beaucoup.
Merci à vous, merci. Sarah Ouramoun. Dans quelques instants, on se retrouve avec Edouard Baird qui sera notre invité pour la dernière partie de cette émission. Ne bougez pas.
Midi 30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Lalando, Christine Bérou, Mickaël qui regarde. Et notre invité qui est comédien, réalisateur, auteur, animateur radio. Il est aussi connu pour son sens de l'humour que pour son sens de l'impro. Que ce soit dans Cravate Club, le centre de visionnage ou Astérix, ce maître du mot est à la fois lunaire et solaire. On l'a vu dans plus d'une cinquantaine de films et il n'est jamais très loin d'une scène de théâtre. La preuve, aujourd'hui, il vient nous parler de son nouveau spectacle Seul en scène, les élucubrations d'un homme soudain touché par la grâce au théâtre Antoine. L'inclassable Edouard Baird est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Edouard Baird.
Bonjour Anne Romanoff.
Edouard Baird, le titre de votre spectacle, ça ressemble. Moi, mon spectacle a failli s'appeler Les élucubrations d'une femme soudain frappée par la graisse. Oh. Bon, on m'a dit que c'était pas vendeur et que ça rentrera jamais sur l'affiche s'il y avait déjà ma photo.
Oui, ben moi je me sers plus gentil. Je suis plus gentil avec moi que vous avec vous, alors sans doute. Oui, ça se la raconte. Non, mais c'est un titre, d'ailleurs, j'en parle dans le spectacle. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait. C'est un. Les élucubrations, c'est une façon de c'est pas les divagations, c'est une façon de parler un peu comme quelqu'un qui croit être inspiré, tout à coup qu'il y a un flux de mots qui lui arrive.
Alors c'est comme un happening ce spectacle parce que vous arrivez sur scène et vous dites que vous jouez dans.
Oula,
vous êtes sur scène. Faut pas le dire.
Oui, parce que c'est en direct en fait, ça se passe vraiment là et les spectateurs sont amenés dans la fiction. C'est donc j'arrive.
Il y a même un moment vous demandez aux gens de vous cacher.
Oui, mais je viens me réfugier dans le théâtre. C'est quelqu'un qui vient se cacher, qui s'est enfui et qui et quand on s'enfuit, plus les minutes passent, plus c'est emmerdant, plus c'est compliqué de revenir dans sa vie d'avant. C'est un type qui est en fugue, comme quand on dit je vais sortir le chien à sa femme, et puis deux mois après, ben dis donc, le chien, il était. Oui,
ça vous est déjà arrivé, ça, Edouard Baird, de partir sortir le chien ? Vous n'avez pas de chien ?
Non, mais on peut sortir l'équivalent d'un chien. Enfin, on peut, voilà, l'absence de chien, on peut sortir rien. Mais enfin, en tout cas, la tentation de fuguer, de disparaître de chez soi et de sa vie, je pense que ça nous arrive tous, même quelques secondes, même dans des moments où on croit être très heureux ou très amoureux, on peut avoir dans notre cerveau, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est ma vie ?
Se laisser aller à la lâcheté, en fait.
Alors, la lâcheté ou le courage de
moi, j'ai jamais envie de disparaître de ma vie, moi, vous êtes un peu spécial.
Mais si je vous ai vu là, pendant une seconde, vous m'avez regardé, qu'est-ce que je m'emmerde à cette émission avec cet invité-là. Vous avez... Non, mais pendant deux secondes.
C'est parce que j'ai faim, en fait.
La vérité. Un petit quart de seconde, vous dites est-ce que c'est vraiment. Est-ce que je suis dans ma vie ou pas ? Est-ce que c'est
ah
ça
non,
ma
mais
vie
moi, j'ai pas
c'est
ça,
vrai
non.
Vous avez de la chance.
Alors, vous caressez un rêve, d'ailleurs.
Ah non, mais c'est un titre absurde. J'avais lu ça. J'ai fait une interview dans Le Figaro et l'article s'intitulait Je caresse un rêve, d'ailleurs. J'ai vraiment dit cette phrase-là, grotesque. On imagine un type qui caresse des rêves.
Non, mais pas que vous rêvez d'aller créer un centre créatif à Montréal ou en Afrique.
Ah, parce que j'adore les villes francophones et puis ça m'amusait.
À Dakar ou à Montréal, vous voudriez partir, inviter des gens dans un endroit.
Je voudrais faire comme une sorte, un grand endroit où on ferait à la fois du théâtre, des émissions de radio, on pourrait faire des plateaux de cinéma. En France, les locaux sont trop chers, c'est très compliqué, les autorisations et tout ça. Tandis qu'il y a des villes où je me dis que c'est possible.
Vous êtes un peu un utopiste, Edouard Baird.
Bah oui, j'essaye un petit peu quand même, parce que sinon, moi je rentre me coucher. Moi, je suis beaucoup plus dépressif que vous si je me bats pas.
Vous êtes dépressif. Vous n'avez pas l'air de répondre.
Non, mais je lutte contre, donc je fais des choses pour lutter parce que je n'aime pas le
calme.
Le calme m'inquiète.
Vous ennuyez, vous avez peur de vous ennuyer.
Non,
penser.
Non, de m'effondrer. Ah, non,
en
ennuyer,
pleurant,
c'est rien.
Vous pleurez
non, je pleure. Un homme qui pleure. C'est quoi la chanson de Réal Génie, très belle ? Un homme qui pleure. Non, ça vous dit rien du tout ?
Non.
Le temps que ça me revienne, l'émission sera terminée. J'ai peur.
Mais vous pleurez souvent, Edouard Baird ?
Non, je pleure au cinéma très facilement.
Ah oui ?
Ah oui.
Sur mesure, là, je vous dis pleurer.
Non, au cinéma.
Quand vous êtes
faites-moi
spectateur.
Une image. Ah oui, comme spectateur de cinéma. Un spectateur,
pardon. Une maman
pardon.
Qui meurt, vous
pleurez. Ah, même avant qu'elle meure. Si elle commence à avoir un peu de fièvre, je m'inquiète. À partir de 37,4, je m'inquiète.
Alors, j'ai trouvé pour Serge Reggiani, si vous voulez savoir. Il faudrait bien qu'on me raconte pourquoi il faut toujours tricher, que l'on m'explique où est la honte pour un homme de pleurer.
Il faudrait bien qu'on me raconte pourquoi il faut toujours tricher et où est la honte pour un homme de pleurer. pour un homme de pleurer. Ça me bouleversait, ouais. Ça. Mmh. La voix de Reggiani, quand il prenait une chanson, il n'en a écrit aucune. Et à chaque fois, c'était comme, je crois, quand on confie une chanson à Johnny. Il l'a réinventé, il a repris des chansons de Moustaki, qui chantées par Moustaki sont pas mal, et tout à coup chantées par lui, Madame, votre fille a 20 ans, elle est extraordinaire. Mmh. Madame, le printemps, vous oubliez, dit par Reggiani, c'est extraordinaire.
Alors, vous imitez aussi avant Jean-Pierre Marielle sur scène, vous rendiez un petit hommage. Comment vous allez continuer à faire ça maintenant qu'il
non. A dit... Pas ces jours-ci, parce que c'était pas lié à l'actualité. À un moment, je rends hommage aux grandes voix, moi, aux gens que j'admire et que j'admirais. Ces acteurs-là, Jean Rochefort, Philippe Noiret,
Jean-Pierre Marielle. Vous avez une vénération pour Jean Rochefort ?
Oui. Mais tout, il y a aussi Pierre Brasseur de la génération encore avant, qui sont des personnages incroyables pour moi. Et puis celui qui est vivant, Jean-Louis Trintignant, à un moment, on entend sa voix dans le spectacle. Mais c'est pas juste des voix comme techniques, quoi. C'est des âmes qui s'expriment par leur voix. C'est pour ça que c'est des gens bouleversants. Et puis voilà, de transmettre les gens qu'on a admirés, c'est un peu ça, on sert à ça aussi, quoi, de faire partager ce qu'on a admiré. On peut pas faire partager que nos dégoûts, nos colères dans la vie, c'est pas mal faire partager ces admirations.
Vous avez une admiration pour ces comédiens-là qui étaient sans limite aussi, quelque part.
Mais
il y avait une folie.
Mais oui, des folies dans la vie, c'est des gens aussi, parce qu'on sentait une liberté quand même, c'était extraordinaire d'être Jean-Pierre Marielle. On voyait, c'est des gens qui se baladaient dans la vie avec extraordinairement de liberté. Ça, c'est très rare dans nos métiers.
Vous êtes libre, Édouard Baird, vous.
Ben, on essaye, puis parfois on se laisse un peu. Hélas, on est moins qu'on le voudrait, quoi. On fait des petits compromis, on dit ah bon, ça fait plaisir, il faut peut-être faire ça. Mais être libre, ça veut dire ne pas seulement se foutre des insultes, mais aussi des compliments d'une certaine façon. Il faut avoir, c'est pas de l'arrogance, c'est pas avoir trop confiance en soi, mais c'est d'aimer son art. Et Jean-Pierre Marielle, on voit comme il se moquait des honneurs et de tout ça. Enfin, c'était un personnage exceptionnel. Il a écrit un très joli livre de souvenirs qui s'appelle Le Grand N'importe quoi, où c'est merveilleux. Il raconte, il avait commencé avec des acteurs qu'il admirait énormément, Delphine Seyrig, des gens comme ça. Il dit, je sentais que chez eux, on pouvait faire de l'humour, mais en mettant des patins. C'était tellement, il y avait un esprit de sérieux formidable. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Édouard Baird qui vient de nous parler de son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce au Théâtre Antoine à Paris. C'est jusqu'au 15 juin 2019, ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Lalonde, ouais, Christine Bérou. Michaël Quiroga et notre invité Édouard Baird venu nous parler de son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce au Théâtre Antoine à Paris. Vous êtes seul sur scène mais vous avez un comparse.
Oui, c'est un faux seul sur scène. Il va tuer. Ouais. Oui, mais parce qu'au début je ne savais pas. Quand on a commencé à répéter, j'ai demandé à un copain, un acteur génial qui s'appelle Christophe Méné, est-ce que tu peux venir aux répétitions, je ne sais pas s'il y a un rôle. Et puis on s'est aperçu qu'il y a un rôle, il y a un rôle formidable, et donc on est deux, mais il ne peut pas continuer, donc il faut que je trouve...
C'est vrai.
Et puis j'ai un autre copain qui s'appelle Patrick Bossard, qui fait un petit clin d'œil à un moment aussi. Non mais c'est plus joyeux quand même. Mais je ne l'ai plus pendant la fin du spectacle, donc je
vous dites que c'est en alternance, mais vous ne savez pas quel est l'autre.
Donc quand on a fait l'affiche, je ne savais pas... Donc il y a un truc bizarre sur l'affiche, mais Christophe Méné ou en alternance, 3 points de suspension.
je crois que justement que c'est parce qu'il y allait avoir des guests qui allaient venir, des gros guests. Je pensais que c'était plus ça.
Vous voulez du people. Bon, il y a Nabila. Non, c'est parce qu'on ne savait pas que quand j'ai lancé le spectacle. Oui, c'était trop tard.
Au début du spectacle, vous interprétez un comédien qui s'est échappé du théâtre d'à côté. Non, mais je ne lis pas. Mais comment vous est venue cette idée? C'est un fantasme? Vous avez déjà voulu faire ça? Ou vous n'allez pas, par exemple, vous échapper de cette émission pour aller vous réfugier sur RFM? Ou est-ce que vous êtes déjà échappé d'un projet foireux, Édouard?
Oui, mais c'est une chose merveilleuse dans la vie quand les gens vous disent là, tu ne peux pas partir ou là, on ne peut pas. Vous avez la preuve que si, je suis en train de le faire. Et c'est une chose de fuguer. Moi, il m'est arrivé de faire l'école buissonnière comme ça, un rendez-vous important. Puis c'est vraiment odieux ce qui se passe, soit une émission ou dans la vie, ou des gens qu'on doit vous présenter. Et tout à coup, c'est évident qu'on ne peut pas partir. Bah, la preuve qu'aussi, on est en train de le faire. Et là, on se sent tellement libre. Et on marche dans la rue, on se dit, c'est extraordinaire, ma vie commence là, voilà.
Et puis vous perdez un contrat. Et
oui. Ah ben oui, il faut que ça
et
soit
puis
pas
ça. Et votre banquier vous téléphone.
Oui. Ça, c'est bien sûr. Non, mais on sait qu'on va payer le prix. Hein. C'est pas un truc. C'est face à des gens puissants ou à des gens intimidants qu'on fait ça. C'est pas face à des gens plus faibles que vous. Non. C'est ce qui est excitant, c'est ça. C'est de reprendre sa liberté.
Vous avez déjà dit merde à des gens importants, Édouard Baird?
C'est-à-dire, moi, ça m'intimide tellement les gens importants que je bois. Et alors, je deviens
vous
trop.
Buvez avant
oui,
d'y aller.
De peur d'être trop aimable. Alors, je bois, je deviens trop désagréable. Enfin, je suis pas à l'aise avec les. Avec les gens de pouvoir.
Là, vous avez bu avant de me rencontrer ?
Non, parce que vous êtes importante au sens... Vous êtes essentielle, mais vous n'êtes pas importante. Oui.
Ah, c'est génial.
Comment ? Ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin de vous pour l'émission, mais que vous ne comptez pas du tout.
Voilà. Non, mais vous n'êtes pas... Vous ne représentez pas le pouvoir. Vous m'invitez, c'est très gentil.
Oui.
c'est vrai.
Personne ne m'a forcé. Oui, je ne me dis pas, si je ne fais pas l'émission d'Anne Romanoff, le spectacle s'effondre. Donc c'est un plaisir d'être là, c'est un choix personnel. Il n'y a pas une 12 attachés de presse qui m'ont dit va chez Anne Romanoff, faut faire monter tes chiffres. Même si vous voulez aller voir le spectacle, chers auditeurs, quand même. Il me reste 3 places le 8 mai.
Vous allez être maître de cérémonie au Festival de Cannes.
Quelle carrière. Oh là, l'ami.
On vous demande souvent d'être maître de cérémonie, Edouard Baird. Vous avez fait le César, les festivals. Hein,
j'ai commencé à la semaine du saucisson à ma semaine de saucisse à Montbéliard.
Comment ça se fait qu'on vous demande? Parce que vous avez un côté un peu chic, dandy.
Voilà. Je porte bien l'habit, vous savez, porte bien l'habit.
Vous êtes élégant.
Voilà, donc voilà, on me met là. Non, je sais pas. Bah écoutez, moi, c'est quand on me demande pas que je me pose des questions. Quand on vous demande,
ça, c'est stressant quand même, parce qu'il y a tout le cinéma, alors le cinéma mondial, quand vous êtes au Festival de Cannes.
Oui, c'est stressant. C'est stressant, mais c'est ça qui est excitant. Je pense que vous aussi, on aime faire ces métiers quand on se fait un petit peu peur, quand on se dit comment je vais faire, qu'est-ce
que
je vais
faire. Mais là, vous écrivez, vous cherchez des idées. Ouais.
Je cherche.
Vous avez trouvé quelque chose?
Non, quelqu'un.
On va brainstormer.
Non, mais c'est pas les moments où on laisse de la place à l'imprévu, non?
Un petit peu quand même. Si, parce que même si vous avez tout prévu, il y a un truc. Moi, l'année dernière, je l'avais présenté, puis j'avais pas prévu qu'en fait, ils n'avaient pas dit aux photographes de s'asseoir. Et à Cannes, il y a 200 photographes devant la scène. Donc déjà, vous jouez pour le théâtre, parce qu'il y a 3-4 000 personnes, donc vous jouez pour la salle et pour la télévision aussi, donc déjà, inconsciemment, vous oubliez qu'il y a 200 photographes qui cliquent pendant que vous faites votre truc, et là, dit merde, et donc tout s'effondre un peu, donc un peu, j'avais oublié mon texte à cause de ça. Non, mais après, il faut se rappeler ce qu'on veut dire.
Vous avez oublié votre texte l'année dernière, on vous a redemandé cette année?
Oui.
Et puis ils ont trouvé personne ou quoi?
Oui. Pourquoi vous avez choisi? Les autres ont dit non. Non, mais là, c'est. Alors après, on a un peu peur dans ces trucs-là, quand vous ne faites pas des trucs humoristiques, vous faites des trucs trop pompeux, genre sur l'écran noir de nos nuits blanches, Cannes, magie, cinéma, la vie, l'amour, la mort, en 24 images, secondes, vous avez l'impression d'être grotesque, donc il faut trouver quelque chose. Bon, ben,
c'est des gens très durs à faire rire, ces gens-là, c'est les pires du monde.
Alors c'est pour ça que j'ai renoncé à faire rire dans ce truc-là. Je me dis que c'est trop. J'essaye d'écrire un truc un peu qui me touche, et puis après, si tout à coup c'est détendu, on fait rire pendant, quoi. Voilà.
Et dans votre spectacle, par contre, on rit beaucoup, Edouard Baird.
Ben, je vous remercie. J'espère pas contre. Enfin, on se moque.
C'est pas de la moquerie,
on
non.
On se moque pas. Les gens rient sauf quand ils veulent faire rire.
Edouard Baird, vous racontez au sujet de l'école. J'étais très bon dans le primaire, dans l'école communale de quartier, et puis après, quand il a fallu faire des devoirs à la maison, ça a été une succession de catastrophes.
Oui, c'est vrai, oui.
Pourquoi?
À cause de ça, moi j'étais une petite vedette de l'école de quartier, où on se connaît, vous savez, tout le monde se connaît, là, jusqu'à la CM2, la 7e, et puis voilà, il n'y a pas à faire des devoirs à la maison, alors tout est sur place, et puis il y avait des personnages, ils disaient qu'ils allaient prendre du thé rouge à l'heure du goûter, ils allaient boire un coup de rouge, le prof de gym, et bon. Et puis après, vous arrivez dans un énorme machin, quand j'étais enfant, j'adorais les bouquins de Marcel Pagnol, il racontait ça très bien, c'est que le primaire, c'est vraiment intime, tout le monde se connaît, et puis on arrive tout à coup, les gens connaissent les gens par leur prénom, dans le primaire, tout le monde se connaît, et puis après, c'est une énorme usine, un peu.
Vous êtes très sensible aux relations humaines, Edouard Baird.
Ah ben oui, tout, on fait tout pour quelqu'un, je trouve. On fait tout.
Moi, à 18 ans, vous avez été au cours Florent pour suivre une jeune fille. Et là, vous tombez dans le cours d'Isabelle Nanty. Et Isabelle Nanty vous dit, si tu restais un peu. Et vous dites, ça fait 30 ans que je suis restée.
Ben oui, je crois que c'est. Alors, je l'ai redit parce que là, elle m'a énormément aidé dans le spectacle, Isabelle. Et je lui dis, au fond, c'est grâce à toi que je fais ce métier. Je dis, oh ben merde, elle me dit.
Si j'avais su. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Edouard Baird, venu nous parler de son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, actuellement au Théâtre Antoine à Paris. Et puis vous êtes dans le film de Michel Leclerc, La lutte des classes. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H, Léa Landau, Christine Mérou, Michael Quiroga. Yes. Et notre invité Edouard Baird veut nous parler de son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, actuellement au Théâtre Antoine à Paris. Il y a Ben H qui a été voir le spectacle hier.
Yes, oui, cher Edouard Baird, on me demande souvent si chroniqueur, c'est une bonne situation. Eh bien, c'est pas vous, je l'espère, qui allez me contredire, mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je crois qu'il y a simplement des moments ponctuels, éphémères, fugaces, ces moments qui nous traversent, qui nous échappent pour toujours, ces moments qui, eux, peuvent être bons ou mauvais. Ce qui entraîne une question subsidiaire, est-ce que chroniquer Edouard Baird, c'est une bonne situation? Là, je répondrai que non. Non pas que le génie de notre invité ne me mette pas dans un état d'admiration contemplatif totalement béat. Non pas que je sois ravi de vous rencontrer ce midi, hein. Moi, des grandes années canales, je retiens que deux personnes, vous et Clara Morgan. Mais je reconnais, non sans une certaine aigreur, que je suis, comme bon nombre de clowns de ma génération, jaloux de notre invité. Hein, là où moi, il me faut 2 heures pour écrire un truc bien, Edouard Baird, il lui faut 2 secondes pour dire un truc mieux. Du coup, je me retrouve comme face à une femme trop bien pour moi. Je suis super excité, mais j'ai la plume un peu molle. Faut dire aussi que hier soir, au Théâtre Antoine, devant les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, vous avez encore un peu plus exacerbé mon complexe. Hein. Nous autres troubadours, toujours en quête d'originalité, vous avez frappé super fort. Hein. Votre spectacle réalise par exemple le premier exploit d'être un pur seul en scène, mais qui se joue à deux. De toute façon, prenez tous les codes du seul en scène et du théâtre plus généralement, hein, mettez-les dans un shaker, ajoutez-y des références à quelques monstres sacrés de la discipline, secouez bien le tout et vous aurez le spectacle d'Edouard Baird. Une alternance d'hommages poétiques, de monologues que seul votre célèbre verve peut exécuter, le tout dans une mise en scène aussi rythmée que surprenante. Et voilà, je vous avais prévenu, j'ai la plume molle, j'écris comme un critique Télérama. Faut dire que la pièce avait tout pour me plaire, la lâcheté et la fuite, et ce sont deux grands thèmes du spectacle. Il y avait des chances que je m'y retrouve, ma copine qui m'accompagnait s'y retrouvait visiblement aussi. À la fin, on a débriefé à la sortie du théâtre, comme font tous les couples normaux. Hein. Je lui parlais de la mise en scène, elle me répondait, et puis il y a Edouard Baird, quoi. Je lui parlais des scènes qui m'ont fait hurler de rire, elle me répondait, et puis il y a Edouard Baird, quoi. Je lui parlais de l'ambiance sonore, très réussie aussi, elle me répondait, et puis il y a Edouard Baird, quoi. J'ai pas tout de suite compris ce qui lui avait plu dans le spectacle d'Edouard Baird, et plus tard, en rentrant, on a fait l'amour, et c'est quand elle a fini par crier « Oh, Edouard !» que j'ai finalement compris. Mais je ne lui en veux pas, je lui en veux pas, et je peux même la comprendre, votre spectacle est vraiment réussi, et pour une fois qu'elle crie. Alors merci Edouard Baird.
Ça vous va droit au cœur, ce compliment, Edouard Baird.
Mais oui, parce qu'en plus, ils m'ont invité, donc j'étais là, donc c'est vrai.
Ça vous a invité.
À la sympa. Maison. C'est des gens très accueillants.
Il est très proche de son public,
ce mec, en fait, c'est du Viagra pour filles.
Vous plaisez beaucoup aux femmes, Edouard Baird ?
Bien sûr.
Ah oui, oh, écoutez, alors jamais assez, parce qu'on se trouve. Non, c'est... Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça?
Je ne sais pas,
vous savez, les hommes qui disent j'aime les femmes, c'est ceux qui n'en aiment aucune qui disent ça. Non, mais je sais, écoutez, je plais aux femmes, je n'ai pas du tout d'être esprit très parti là-dessus. On aime plaire, mais on aime plaire aux hommes, aux femmes, aux chiens. Quand on fait ces métiers, on est un peu, évidemment, peut-être en trop de séduction. On voudrait que les chiens aboient sur votre passage, que les chats miaulent, que les tables tapent du pied.
Il y a une certaine aura autour, parce que par exemple, bon là, ça se voit pas, j'ai une casquette, mais capillairement, on est un peu semblables. Oui. Chez moi, c'est juste des coiffés, chez vous, c'est dandy.
Enfin, non, mais vrai, côté, oui, mais on veut être Jésus-Christ, sinon on fait pas ce métier. Enfin, vous voulez, on a envie de marcher sur l'eau. Enfin,
vous avez toujours ce côté chic aussi, Edouard Baird.
Je suis extrêmement chic, sauf dans le privé. J'ai des cris de Depardieuisation à la maison avec un chambonneau.
Des crises de Depardieuisation, c'est oui. Quoi, Edouard Baird?
Ce Depardieuiser, c'est tout à coup d'être plus cru dans la vie, courir après des jambons, enfin des trucs.
Ça vous arrive?
Oui, je sais pas ce que je voulais dire.
On le saura dans quelques instants. Ne bougez pas. Europe. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Edouard Baird, venu nous parler de son excellent spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce au théâtre Antoine à Paris en ce moment. Et puis le film La lutte des classes, qu'on vous encourage vraiment à aller voir, un film de Michel Leclerc avec Leïla Bekti. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H, Lalando, Christine Bérou, ouais. Michael Quiroga et notre invité Edouard Baird venu nous parler de son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, un spectacle qui cartonne en ce moment au Théâtre Antoine à Paris.
Oui, non mais c'est formidable, c'est bien accueilli, mais on commence.
Alors vous aimez beaucoup les frites, Edouard Baird?
C'est une question de fond.
Oui, vous pouvez dire, Anne, dites, à ce sujet, vous aimez beaucoup.
Anne, c'est la métaphysique et la bouffe. Hein.
Vous dites les frites.
Du côté de Pardieu aussi.
Voilà, vous dites ça. Les frites, oui, mais alors les frites très très fines, très craquantes, pas les gros rectangles. Dans le cornet de frites, il y a souvent du trop large, j'aime bien que ce soit à la limite du brûlé.
C'est mon combat. Je suis un militaire. Alors il y a plein d'écoles sur les frites. Hein. Il y a beaucoup de désaccords. Ça peut mettre des gens en colère. Peut-être qu'ici l'émission est en public. Je sens une vraie colère qui gronde. Quoi. Là, je sens monter la colère. Hein. C'est mon côté élu macronien, le mec qui est dans son bureau tranquille, qui sent monter des choses. Non mais les frites. Oui, j'aime quand ça craque. Vous savez, il y a des frites où dedans il y a la patate. On oublie une fois que vous avez enlevé la peau, c'est plus de la frite dedans. C'est presque de la pomme de terre au four dedans. Et ça, c'est très grave.
Ah, où c'est que vous mangez les meilleures frites, Edouard Baird?
Ah, il y a des très bonnes friteries dans le Nord comme ça qui sont... Et celles à la graisse de bœuf, elles sont formidables.
Édouard Baird, qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand ils vous reconnaissent ?
Quand ils me reconnaissent alors il dit « Bravo Monsieur Berne, on vous aime beaucoup. » Berne,
ce que vous faites pour le patrimoine.
Vous faites pour le patrimoine, c'est formidable. Il me dit, mais non, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs périodes, il y a des gens qui connaissent le monologue d'Astérix, alors ils me disent ça, il n'y a pas de bonne situation. Je dis en effet, je ne sais pas quoi dire à ça. Non, mais ça dépend de oui ou il y a des gens qui ont vu le spectacle. Non, mais enfin, on fait surtout ces métiers pour. Ce qui est merveilleux, c'est quand les gens vous disent merci plutôt que bravo. Là, ça devient dingue. Je trouve.
Ah ouais.
Là, ça devient là, c'est extraordinaire.
Si on vous dit je peux prendre un selfie, vous répondez quoi, Norbert ?
Eh ben, si je suis seul, oui. Si je suis avec ma fille ou quelqu'un, je dis bah, là peut-être pas. Enfin, ma fille a peut-être autre chose à faire qu'attendre que son père fasse des photos dans la rue. Quoi.
Ah, vous refusez ?
Avec ma fille toujours. Ah ouais. Oui, je trouve qu'on dérange pas une famille. Puis ouais. Dans ces cas-là, on sort plus dans la rue si on peut plus être en famille, enfin tranquille. Non, si je suis seul, il y a aucun problème.
Alors que Anne demande à sa fille de prendre la photo.
non, mais je trouve qu'il faut laisser. C'est pas agréable pour nos enfants d'être pris en otage par notre métier quand on sort dans la rue. Sinon, non, je trouve que c'est pas sympa. Non. Ou si je suis en train de parler. Quelqu'un qu'on m'interrompt au milieu, j'aime pas des phrases comme la rançon de la gloire, je vois pas pourquoi on devrait payer quoi que ce soit, je sais pas.
Mais non. Du coup, vous croyez pas que c'est un peu difficile pour votre fille que vous la preniez tout le temps avec vous dès que vous sortez vous elle a une vie aussi, quoi.
Non, mais l'idée qu'on doive des choses, on le fait ou pas par plaisir, je crois qu'on doit rien.
Vous faites que ce que vous sentez, Edouard Baird.
Mais vous savez, il y a tout un truc, on a l'impression, oh là là, il a la grosse tête, j'ai vu des grandes vedettes beaucoup plus populaires que moi, tout à coup, il y a des polémiques parce qu'ils ont refusé un selfie. Mais je sais pas, on sait pas, peut-être que quelqu'un de sa famille est malade, il a pas le droit de sortir dans la rue à cause de ça. Peut-être qu'il lui arrive un drame personnel, il doit sourire. On doit être sur scène dès qu'on sort dans la rue. Non, on n'est pas sur scène, on est dans la rue.
D'accord.
Voilà.
Vous allez même pas chez
C'était le seul moment sérieux. De...
Voilà. Cette colère, du monde. Je sens la colère monter.
Parlez d'autre chose, vous allez nous le fâcher.
Léa Landau a des questions à vous poser, Edouard Baird.
Oui, Edouard Baird, en fait, dans votre seul en scène, donc seul à deux, vous êtes dans le mauvais théâtre, mais vous vous accommodez quand même de votre nouveau public en restant fidèle à vous-même. Et je me suis dit, je suis sûre qu'il serait aussi frappé par la grâce s'il était au bon endroit, mais qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre. Je vous ai donc préparé une interview dans la peau d'un autre, Edouard Baird. Par exemple, je sais pas, mais je me suis demandé si vous deviez tomber amoureux d'un écrivain, ce serait duquel ?
Tomber amoureux d'un écrivain ? Mais pour son écriture, pour...
Ah bah, pour tout.
Mais alors, il y a des écrits... Oui, c'est ça, mais alors on lit quelqu'un... Il faut pas rencontrer les écrivains qu'on
admire,
je crois.
Ah
oui.
Ouais ?
Et il faut pas lire les femmes qu'on aime.
Non, mais je...
Ouh là là, bon... Non, mais moi, vivre avec François Sagan, ça devait être délirant.
Ah ouais.
Parce que c'était une énergie de vie, une fantaisie, une liberté. Voilà, c'était extraordinaire de suivre.
Et si par malentendu, vous étiez projeté dans le corps d'une femme célèbre, ce serait laquelle ?
Mais dans le corps, de son point de vue, elle. Parce que la phrase
non,
est dingue.
On s'entend. Hein ? Ouais, c'est ça. Bah, comme vous voulez, après tout.
Fabrice Luchini. Non, comment j'ai pas... Dans le corps d'une actrice célèbre ?
Ouais.
Vivre la vie d'une actrice. J'aimerais bien savoir être Rihanna pour danser.
Oui. Ah ouais
oui. Un corps qui bouge, oui.
Et si vous étiez Emmanuel Macron, quelle serait la première phrase de votre allocution aux Français ?
Oh mon Dieu ! Non, ça, c'est pas lui. C'est moi. Non, ben, la première phrase, c'est que je rentre du Touquet, j'arrive. Laissez-moi deux secondes de vacances. Non, mais c'est très difficile parce qu'il faut qu'il y ait moins de communicants, surtout il faut parler plus normalement.
C'est vrai. Si vous n'aviez plus qu'une insulte autorisée pour le reste de votre vie, ce serait laquelle ?
Moi, je suis un fou des insultes très très simples, mais je trouve que des trucs comme merde, il y a vraiment, c'est rien. Mais après, on peut vraiment jouer avec. Il y a des intonations, etc. Parce que les insultes qui sont trop marquées, trop espèce d'enculé de fils de pute, il n'y a pas énormément de variations. Il n'y a pas de variations, quoi. Ça se dit droit,
ouais,
tandis que des merde, ta gueule, merde. Mais il y a un merde, il y a merde, il y a le oh merde, il y a des merdes doux, il y a le merde. Et non, on peut vraiment passer beaucoup de temps avec merde.
C'est vrai qu'il y a des merdes dures et des merdes molles.
Tout à fait. Des longs, des courts.
Alors si Edouard Baird devait...
Je fais une déception totale chez ma voisine.
Non, pas du tout, je suis toujours très admirative quand il s'agit de merde. Avec vous, tout va bien.
Elle a tenu à être là, Christine Béroux.
Bah oui.
C'est une fan. Hein.
C'est vrai. Bah maintenant, je suis mal à l'aise. Non, mais c'est vrai.
Ouais, de toute façon, t'es tout le temps mal à l'aise.
Elle était dans la salle hier, d'ailleurs.
Oui. Mais même on s'est croisés après. Vous m'avez fait la bise et après, je me suis pas lavée. Bref.
Moi, c'est avant que je.
Bon, si Edouard Baird devait le temps d'une journée être un autre Edouard, ce serait lequel ? Edouard Philippe, Edouard Balladur ou Edouard aux mains d'argent ?
Ah, Edouard aux mains d'argent, Johnny Depp, ça doit être période Edouard aux mains d'argent, ça devait être dingue. Moi, j'étais fasciné à l'époque par le coup d'Edouard Balladur.
Ah oui,
j'avais très peur. Oui, j'avais très peur en vieillissant d'avoir énormément de mentons. Il y a des dessins de Gottlieb. On disait, on lit l'âge d'un violoniste au nombre de ses mentons comme ça. J'avais peur. Alors oui, alors Édouard Philippe, ça doit pas être très confortable. Hein, non, oui. Non, pas de politique, surtout pas de politique. Okay. Non.
Alors bon, bah si vous étiez un fabricant de gilets, vous préféreriez fabriquer des gilets jaunes, des gilets de sauvetage ou des gilets pare-balles?
Oh, que des pièges, que de l'internet, que du tweet derrière.
Il n'y a pas de piège.
Bah écoutez, du gilet jaune ou du gilet pare-balles ou gilet verbal ou du gilet. Et le troisième, c'était quoi?
Gilet de sauvetage.
Non, le petit gilet de flanelle quand on vieillit pour avoir un petit peu chaud, Petit mets ton petit flanelle. Je te dis, non, regarde-moi. Je te dis de mettre. Tu es branché, tu es appareillé. Écoute, lis sur mes lèvres. Est-ce que tu étais chez Madame Roumanoff? Non, la dame que tu aimes bien. Oui, tu as été à son émission? Comment ça s'est passé? Ils t'ont posé la question?
Bon, si on devait vous interpeller autrement que par votre nom et prénom dans la rue, Edouard Baird, alors à part Baird, vous aimeriez qu'on vous appelle comment?
J'ai des choix ou pas, non?
Non.
Très simplement, maître...
majesté.
Patron majesté. Républicain, maître.
Votre grâce.
C'est comme les gens qui disent... écoute, on va pas se vous voyez. Ah si, c'est avec plaisir.
Bon, et enfin, Edouard Baird.
Non, ça vous arrive pas. C'était quand on est humain, je vais pas... on se tutoie. Oui, mais enfin, c'était quoi notre proposition? Pas se vous voyez. Allons-y. Ah, on se tutoiera juste après, demain, on va être potes, dès qu'on est potes. Oui, il a la grosse tête, bébé. Il veut pas faire de selfie, il veut qu'on le vous voie, il est rendu fou.
Bah pour finir, Edouard Baird, si vous étiez Anne Roumanoff, que diriez-vous d'Edouard Baird?
Qu'est-ce qu'elle dirait?
Ouais, si vous étiez Anne Roumanoff, que diriez-vous d'Edouard Baird?
Qu'est-ce que je dirais? Oula, c'est trop compliqué. Trop compliqué. trop de suppositions. Si machin était ça, un truc à la place de truc à là. Si Anne Roumanoff n'était pas Anne, mais un autre prénom et pas le même Anne Roumanoff, et c'était pas vous, mais quelqu'un qui se fait passer pour vous, mais dans une autre situation que celle-là, dans une émission qui n'est pas celle-là. Parce que c'est pas vrai, dans une chose d'irréalité qu'on recréerait là. Si c'est une autre émission d'une autre radio qui marche même, qui marche moins bien, parce que Europe 1 peut tout à fait revenir, parce qu'Arnaud Lagardère, il y a une motion de censure sur lui. Et alors donc à ce moment-là.
Merci.
Anne Roumanoff, l'histoire de la semaine.
Edouard Baird, vous avez fait virer là tous. C'est notre dernière émission sans doute. Alors Edouard Baird, on a une tradition dans cette émission. Chaque lundi, on démarre une histoire avec un mot à imposer, puis à piocher dans ce chapeau.
Merci.
Et donc, vous devez démarrer cette histoire.
Bravo.
Il y a du cash aussi. Alors, je prends un mot.
Ouais,
hein.
Vous prenez un mot.
Ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. Donc à vous de démarrer une histoire en employant ce mot, mais en deux, trois phrases, parce que les invités de la semaine vont la poursuivre.
Ouvert la nuit, ce bar était censé l'être, mais lorsque j'arrivais, je trouvais porte close.
Merci Edouard Baird d'être passé nous voir. On rappelle votre excellent spectacle, Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, actuellement au théâtre Antoine. Et puis, allez voir aussi La lutte des classes de Michel Leclerc.
Les deux à la fois, vous pouvez faire les
en
deux.
Même
en même temps, faites-le en même temps, t'arrives de groupe. Mais c'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. J'ai senti une énorme déception sur la lecture d'Ouvert la nuit. J'ai senti un effondrement, Andrew Madoff. J'ai dit, ils sont des tirettes, tes missions, et tout à coup, je dis deux phrases, j'ai dit, ah oui, d'accord, donc le mec est quand même un peu décevant.
Merci Edouard Baird. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1. Thank you.